Sans détour avec François Beauregard.
Bonjour, ici François Beauregard et vous écoutez Sans détour, le Sans détour du 4 octobre 21. Aujourd'hui, nous allons parler à Mme Cécile Redge, qui est coordonnatrice à l'Association québécoise des personnes de petite taille, car octobre est le mois du nanisme au Québec. Nous allons aussi parler d'ergothérapie ou d'ergonomie avec Carolina Botteri et sa collègue Evelina Pitouch. On va parler des défis qui rencontrent les parents en situation de handicap. On va démystifier le syndrome de l'X fragile avec le docteur François Corbin. Et pour terminer, Christiane Campagna nous fera faire encore une fois le tour du monde, tout ça à Sans détour. Bonjour, Madame Redge, comment allez-vous?
Bonjour, François, ça va bien et vous?
Ça va très bien. Vous êtes coordonnatrice à l'Association des personnes de petite taille. Et oui. Le mois d'octobre, c'est le mois du nanisme au Québec. Et puis là, ça met en opposition un terme médical et puis la façon, je dirais, correcte de décrire la situation que les personnes de petite taille vivent. Parce que souvent, il y a des termes qui sont péjoratifs ou blessants qui peuvent être utilisés.
Oui, ça arrive très souvent, effectivement. C'est pour ça qu'on fait le mois du nanisme. En fait, c'est vraiment pour sensibiliser la population à cette condition qui est mal connue, puis faire tomber les préjugés. Donc, c'est un mouvement qui a été lancé à l'origine par Little People of America.
D'accord.
Et puis, d'autres regroupements dans le monde ont rejoint le mouvement et la QPPT célèbre le mois du nanisme depuis 2013. Donc, c'est notre 9e édition.
On estime à 3500 la population, le nombre de personnes au Québec qui sont de petite taille. Est-ce que c'est un chiffre officieux? Est-ce que ça ressemble à la réalité selon vous?
Non, en fait, c'est une estimation parce qu'il faut savoir que le nanisme, toutes causes confondues, c'est environ une naissance sur 10 000.
D'accord.
Donc, on a fait une estimation et je pense que 3 000, c'est même trop élevé. En fait, okay. Je pense qu'on serait plus autour de 1000, mais on n'a pas de chiffre officiel. Donc, ce serait bien éventuellement d'avoir des chiffres officiels. Là, c'est vraiment une estimation qu'on a faite nous-mêmes.
Parce que on peut penser que des gens qui vivent, je dirais, en situation d'isolement souvent, de par leur situation d'handicap. En plus, les gens qui vivent les mêmes challenges ne sont pas très nombreux. Alors, ça prend vraiment un effort là, pour vous rejoindre tous, communiquer les nouvelles et puis créer un esprit de solidarité là, parce que c'est une population qui est assez dispersée.
Oui, mais c'est pour ça aussi que l'Association québécoise de petite taille a été créée. C'était vraiment dans l'objectif de réunir en communauté toutes les personnes de petite taille à travers le Québec. Mais c'est vrai c'est très disparate, en fait. Quand on parle de petite taille, il y a vraiment des centaines de conditions qui causent la petite taille. Mmh. Et puis, il y a la condition la plus connue, c'est la chondroplasie. Donc ça, c'est l'acteur Peter Dinklage de Game of Thrones a cette condition-là.
Okay.
Donc peut-être pour visualiser. Mais il y a d'autres conditions qui vont être très très rares, on n'a même pas de nom pour ces conditions.
Mmh.
Et puis du coup, c'est vrai que c'est assez difficile parfois de rejoindre les personnes de petite taille qui ont des conditions plus rares parce qu'elles vont moins s'identifier à cette figure de la chondroplasie qui est comme la figure un peu classique, on va dire, de la petite taille. Mais c'est ça, nous, on travaille vraiment à rejoindre toutes les formes d'ananisme et à toutes les reconnaître de toute façon parce que les personnes vont quand même vivre les mêmes enjeux au niveau des problématiques médicales, au niveau des problématiques sociales reliées au nanisme.
Oui, parce que la situation demeure la même. Je pense, entre autres, on va parler parmi les enjeux, entre autres, je dirais, les transports en commun, surtout dans les régions urbaines. Là. Les stations de métro ne sont pas toujours conviviales pour tous. Il y a beaucoup d'escaliers, souvent pour une personne de petite taille, et c'est tout à fait vrai aussi pour des gens qui vivent toutes sortes d'autres situations, les stations de métro là, sont laborieuses. Est-ce qu'il y a eu des avancées de ce côté-là? Est-ce que vous êtes en mesure de faire passer votre message?
Oui, bah, c'est sûr que nous, pour tout ce qui est transport, on travaille avec au niveau du RUTA Montréal, donc le regroupement des usagers du transport adapté. On travaille avec eux pour améliorer ça, parce qu'effectivement, c'était un gros problème. Et puis, nous, les personnes de petite taille, la plupart du temps, sont mobiles, mais il y a des personnes de petite taille qui peuvent être en fauteuil roulant.
Exact.
Donc là, dès qu'il y a un escalier... C'est comme n'importe quelle personne en fauteuil roulant, c'est fini. Mais oui, il y a beaucoup de problèmes au niveau de l'inaccessibilité, de l'environnement. Au niveau de la petite taille, ce qui va être compliqué, c'est que tout est beaucoup trop haut souvent. Donc toutes les marches, les comptoirs, les interrupteurs. Et ça peut être trop profond aussi, parce que souvent, les personnes de petite taille ont des bras plus courts. Donc atteindre des choses qui sont profondes, comme par exemple un évier, un robinet, je veux dire, si l'évier est trop large, ça va être très compliqué. Donc au niveau de l'accessibilité, il y a beaucoup de choses à revoir, ça, on est bien d'accord.
Oui, parce qu'entre autres dans les régions urbaines aussi, même les rues piétonnières, j'ai vu quelque chose à ce sujet-là, les rues commerçantes piétonnières à Montréal ne sont pas tout à fait faciles pour tous et pour toutes. Dans le mois que vous commencez, là, de sensibilisation du public, est-ce qu'il y a des thèmes que vous abordez en particulier?
Oui, en fait, nous, on a à chaque année, on a un thème pour le mois d'humanisme. Cette année, c'est visons l'autodétermination.
D'accord.
Et en fait, l'idée de ce thème, c'est venu du fait qu'on est dans un contexte où les discriminations vécues par les minorités sont plus médiatisées et reconnues. Donc récemment, il y a tout le mouvement Every Child Matters, l'anniversaire de la mort de Joyce et Echaquan. Mais on se rend compte que les personnes en situation de handicap, on a encore beaucoup de mal, nous, à se faire entendre et à faire reconnaître le capacitisme qu'on peut vivre. Et puis, les personnes de petite taille, elles subissent un traitement particulier. En fait, elles vont souvent être regardées, les gens vont avoir des sourires quand ils les perçoivent. Elles sont perçues comme drôles, comme cute. Elles font souvent face à des commentaires, des situations, des questions qui peuvent être malaisantes dans l'espace public. Donc, tout ça, c'est des micro-agressions qui ont des impacts importants sur l'estime de soi, puis qui peuvent être fatigantes au quotidien. Et donc, vraiment, on voulait viser l'autodétermination et amener le public à revoir ses préjugés. Et donc, pour ça, on a créé un jeu de cartes, en fait, questions-réponses. Ouais. Et puis, les réponses, en fait, vont aider les personnes de petite taille et les parents d'enfants de petite taille à reprendre le contrôle dans des situations qui peuvent être gênantes en public.
Oui, est-ce qu'il y a 52 cartes, ou presque?
Non, malheureusement. Mais on va sûrement faire une
parce que je pense qu'il pourrait
deuxième édition l'an prochain.
Ouais, il pourrait facilement y avoir 52 sujets de répartie. Peut-être pour les enfants au début de leur sociabilisation, c'est important qu'ils ou qu'elles se positionnent adéquatement par rapport aux autres enfants dans la cour d'école ou sous le coin de la rue aussi. Ça, c'est important. Peut-être les adultes sont mieux équipés. À l'adolescence, ça doit être difficile aussi.
Oui, en fait, c'est toutes des questions assez fréquentes qu'on va retrouver. En fait, que ce soit un enfant, c'est sûr que la tournure va être dite différemment si c'est un enfant qui parle à un enfant, mais le contenu reste quand même le même. C'est vraiment les questions courantes, genre « check le nain », tout ce genre de choses un peu idiotes qu'on peut rencontrer. Donc, nous, on a vraiment répertorié avec nos membres, en fait, toutes les situations les plus courantes qui étaient vécues. Et puis, pour les parents aussi, qu'est-ce que leurs enfants de petite taille peuvent vivre comme quelque chose qui arrive souvent pour les parents, c'est les autres parents pensent que leur enfant est surdoué parce que l'enfant est petit.
Ah bon?
Ils imaginent qu'il est plus jeune, mais en fait, c'est un enfant de petite taille.
Ah,
donc, il y a vraiment... ça peut être un peu difficile pour un parent de répondre à cette question-là. Donc, on a vraiment un peu travaillé là-dessus.
On pense que l'enfant a sauté 2-3 années scolaires parce qu'il était...
Ouais.
Il ou elle était super brillante. Mais c'est simplement parce qu'elle est d'une taille qui est en deçà de la médiane de son groupe d'âge, là, voilà, c'est tout.
Oui, c'est juste ça. Donc, c'est pas forcément évident de répondre quand on est un parent à ce genre de remarques-là, parce qu'on veut pas dire « Ben non, mon enfant n'est pas surdoué, mais il est juste de petite taille. »
Oui, je comprends. Et il y a aussi la problématique des parents qui eux-mêmes sont... qui sont de petite taille, soit l'un, soit l'autre, soit les deux. Et dans ce sens-là, je pense qu'il y a des progrès à faire aussi dans l'acceptation sociale. Les gens, parfois, vont les regarder curieusement, là, mais ça, c'est long, comme je dirais ça, corriger le regard du public là, envers une situation.
Oui, c'est un gros problème. C'est vraiment relié ça au capacitisme de nos sociétés qui fait qu'on ne peut pas imaginer, entre guillemets, qu'une personne en situation de handicap peut être parent, alors que c'est tout à fait possible.
Oui.
Puis nous, c'est vrai que c'est pour ça aussi qu'on a fait l'an dernier le projet Tous parents.
Oui.
C'est un guide sur la parentalité en situation de handicap pour les parents et les futurs parents, donc pour leur, en fait, leur montrer finalement que leur projet est faisable, parce que souvent les médecins connaissent pas bien les conditions, donc ils imaginent que c'est pas possible et ils découragent les futurs parents en situation de handicap.
Oui. Et souvent, la famille autour d'eux aussi va les décourager ou ainsi de suite, là, en remettant en doute leur capacité ou tous les dangers qui menacent l'enfant à venir, qui va avoir des parents incompétents, là, c'est ce qu'on imagine.
Oui, c'est ça. Malheureusement, la famille aussi peut être un vecteur de discrimination, là, parce qu'ils vont se dire « Ah, mais comment il va faire pour s'occuper de son enfant, pour lui donner le bain, le nourrir, etc. » Alors qu'en fait, il y a beaucoup de techniques qui existent. Il y a la clinique Parents Plus qui a contribué au projet.
Tout
qui
à
a
fait.
Des techniques pour aider les parents.
Ouais. Et à ce sujet-là, Mme Redge, restez à l'écoute parce qu'on va en parler dans quelques minutes. Justement, du capacitisme et de la capacité des personnes en situation de handicap, de la parentalité. Vous allez avoir une exposition à l'Écomusée du Fier Monde, je pense, d'ici la fin du mois.
Oui, ça, on ne l'a pas encore révélé, entre guillemets.
Ah, excusez!
Non, mais c'est bon, parce que c'est prévu. Mais oui, c'est un scoop, ça va être à révéler un peu plus tard dans le mois. Mais c'est en lien avec notre thématique aussi, de vision d'autodétermination. Et effectivement, donc c'est du 27 octobre au 14 novembre.
D'accord.
Et ça va être des portraits grandeur nature de personnes de petite taille, avec des témoignages, en fait. Et puis l'idée, c'est vraiment de montrer que les personnes de petite taille peuvent avoir des vies tout à fait normales et banales. C'est vraiment d'aller démystifier. Et puis l'idée de faire grandeur nature, c'est aussi pour confronter le visiteur au handicap et puis lui montrer peut-être que il va plus imaginer les limitations que va vivre la personne en voyant la taille. Et puis c'est aussi pour humaniser, parce qu'on veut quand même montrer que on est des humains derrière le handicap. Et puis c'est ça qu'on met de l'avant dans l'exposition, enfin qu'on va mettre de l'avant.
Parce que souvent aussi, ce qui est mal compris, c'est la problématique médicale qui vient avec les différentes sources du problème qui peuvent être soit des problèmes d'articulation, des problèmes squelettiques, musculaires, ainsi de suite. Là, c'est pas facile de vivre nécessairement dans un corps de petite taille. Là, ça peut créer aussi des situations douloureuses, en fait, pour la personne à vivre. Oui, tout à fait.
Madame... Oui, parce que c'est... Oui, ah, pardon.
Allez-y. Mais j'étais obligé de vous couper. Cette valeur. Mais restez avec nous. Comme je vous dis, on va parler de la parentalité. Alors, c'est certainement quelque chose qui rejoint votre initiative de tous parents. Et ça va rejoindre tout le monde. Je vous remercie beaucoup, Madame Redge.
Mais merci à vous de nous avoir invités.
Je te souhaite un bon mois et puis une bonne exposition à la fin du mois.
Oui, merci.
Bye. Thank you. Stan Getz, John Coltrane et quelques-uns de leurs amis. C'était un extrait d'une pièce qui en regroupe trois, en fait. Autumn Leaves, Moonlight in Vermont et What's New, un medley. Alors, on pourrait écouter ça un soir tranquille devant le foyer en regardant la pluie automnale. Nous allons maintenant passer à la parentalité, les défis rencontrés par les parents en situation de handicap. Et pour en parler, nous avons avec nous Mme Carolina Bottary, qui est professeure en ergothérapie à l'École de réadaptation de l'Université de Montréal. Mme Bottary, bonjour.
Bonjour.
Et Mme Evelina Pitouch, qui est ergothérapeute et doctorante en sciences de la réadaptation aussi à l'Université de Montréal. Mme Pitouch, bonjour.
Bonjour.
Et vous êtes toutes les deux, évidemment, en ergothérapie, vous collaborez à une clinique dont on a parlé brièvement tout à l'heure, là, entre les branches avec notre invitée précédente. Et parlez-nous un petit peu plus de la parentalité chez les personnes en situation de handicap, parce que vous avez fait des recherches là-dessus et découvert des choses qui ont des applications pratiques.
Oui, donc dans notre travail comme ergothérapeute et dans nos recherches, on accompagne la clinique, dans le fond, pour mieux connaître les besoins des parents en situation de handicap, pour voir... dans le fond, les équipements qu'ils peuvent avoir besoin quand ils ont des troubles physiques et cognitifs. Mm-hmm. Donc, s'ils ont besoin d'avoir de l'équipement plus accessible, donc la clinique le donne et on les accompagne pour voir des fois l'accompagnement supplémentaire que le parent peut avoir besoin s'il y a aussi des défis cognitifs, soit au niveau de la mémoire, de la résolution de problèmes, ce genre de choses-là.
Parce que on parle évidemment de la clinique Parents Plus, là, qui est sur Laurier-Est, je pense.
Oui, c'est ça. C'est une des seules cliniques au monde qui offre ce genre de service-là pour les parents en situation de handicap.
Parce qu'il y a d'abord une question de capacitisme, là, souvent avant même que l'enfant vienne arrive parmi nous. Déjà, les parents sont souvent sujets à une désapprobation ou à une liste de défis qu'on essaie de faire insurmontables parfois devant eux. Vous les aidez justement à franchir ce pont-là.
Oui. Evelina, je te laisse y aller.
Oui, exactement.
Merci beaucoup. Donc, effectivement, mais je suis d'accord, M. Beauregard, que lorsqu'on examine la littérature scientifique sur le sujet, qui, je dois dire, est en plein essor, justement, mais lorsqu'on interroge aussi les personnes sur le terrain, donc à la fois les parents, leurs proches, les cliniciens, les organismes communautaires, les chercheurs qui s'intéressent à ce sujet-là de plus en plus, eh bien, on entend effectivement qu'il y a un manque de sensibilisation, peut-être un manque d'éducation de la part de certains professionnels, mais ça touche aussi le grand public, là. Donc on parle d'une méconnaissance de qu'est-ce que c'est la parentalité en situation de handicap et comment est-ce que c'est possible.
Parce qu'il n'y a pas vraiment d'offre intégrée, je pense. Les gens qui sont en situation de handicap, qui deviennent parents, sont laissés un peu à eux-mêmes, à elles-mêmes. Et il faut se démener pour trouver des ressources. Parce qu'il n'y a pas un guichet, là. On arrive à Clinique Parents Plus parce qu'on l'a trouvé.
Ouais, c'est un des grands problèmes qu'on remarque dans le réseau. Pour plusieurs populations, il y a vraiment des continuums intégrés. Que tu aies le cancer, que tu aies un traumatisme crânien, il y a des réseaux, il y a des continuums de soins. Mais la parentalité, c'est un des problèmes là, qu'on est en train d'identifier via nos recherches. C'est que les parents nous disent vraiment très haut et fort qu'ils ont de la difficulté à recevoir des services dans leur rôle de parents. Ils peuvent parfois recevoir des services d'aide à domicile, d'aide pour l'habillement, d'aide pour différentes choses, mais leur rôle parental, là, souvent, ils ont vraiment de la difficulté à être reconnus, l'importance de ce rôle-là et d'avoir les besoins, de recevoir les services qu'ils ont besoin.
Et ça, c'est enfin, la clinique Parents Plus, je dirais, comble un besoin, en tout cas en partie, pour les enfants de 0 à 2 ans. Et quelle forme est-ce que votre aide prend? Vous avez parlé d'équipement. Est-ce qu'il y a aussi une façon d'apprendre et un apprentissage de l'utilisation de ces équipements-là?
Évina, je te laisse y aller.
Oui, parfait, merci. Donc, effectivement, à la clinique Parents Plus, donc on a affaire à des ergothérapeutes chevronnés. Mm-hmm. Donc, c'est une clinique qui existe depuis maintenant plus de 20 ans, pionnière au Québec et ailleurs dans le monde, comme on l'a dit. Donc, oui, on parle entre autres d'une offre d'équipements adaptés qui ont été pensés, testés sur mesure pour les parents en situation de handicap. Mais bien sûr, ça s'accompagne d'une évaluation, donc de recommandations. Donc, comment utiliser concrètement ces équipements-là au sein de son domicile, en considérant bien sûr ses capacités, mais aussi son environnement. Donc oui, vous avez raison, ça va s'accompagner d'enseignement et d'autres stratégies justement pour mettre en application ces apprentissages-là.
Est-ce que vous vous déplacez pour aller au domicile, là où les équipements vont être utilisés? Comment ça fonctionne? Il y a d'abord une évaluation de la situation.
Donc, nous, on représente le volet recherche. Donc, le volet clinique, nous, on représente le volet recherche. Nous, en recherche, quand on collabore avec la clinique Parents Plus, généralement, les besoins sont un peu plus complexes et les évaluations se font au domicile du parent.
Okay,
donc, on
d'accord.
se déplace ensemble, l'équipe de recherche, l'équipe clinique, et on va vraiment voir le parent en interaction avec son enfant dans son domicile pour essayer de voir qu'est-ce qui est difficile et comment est-ce qu'on pourrait aider le parent et aider que le bébé soit bien à domicile.
Effectivement. Oui, puis si je peux compléter pour le volet clinique, donc si je me fais la porte-parole des services, effectivement, donc les ergothérapeutes de la clinique Parents Plus se déplacent à domicile, mais dans un rayon donné. Donc, étant donné que c'est la seule clinique de ce genre au Québec, c'est sûr qu'on a aussi affaire à des services en consultation ou en téléconsultation dans le contexte de la pandémie pour desservir une clientèle élargie à travers la province.
Parce que c'est certain que malheureusement, vous n'avez qu'un point de service qui est au cœur de Montréal, mais les besoins sont plus vastement répartis dans la province, dans le territoire. Ça, c'est certain. Il y a aussi non seulement une absence de guichet unique, mais il y a aussi une disparité entre les agents payeurs. Dépendamment des circonstances qui ont amené à la situation d'handicap, le soutien est assez variable et dans ce sens-là aussi, il y a une forme d'inégalité et d'injustice.
Bien, effectivement, les acteurs qu'on a rencontrés sur le terrain nous nommaient des enjeux financiers, certains jusqu'à même devoir quitter, par exemple, leur milieu de l'emploi pour continuer de soutenir la famille ou son conjoint, sa conjointe qui est en situation de handicap. Donc, effectivement, ce manque de ressources financières-là, ça a des conséquences très concrètes sur la vie des familles, oui.
Et les recherches que vous faites, Mme Bottary, est-ce que vous avez raffiné ou, je dirais, ça devient plus pointu, la compréhension des besoins de ce qui doit être fait? Où est-ce que ça vous a amené? Parce que maintenant, vous avez un échantillonnage qui est de plus en plus vaste.
Oui, donc ce qu'on a surtout travaillé, c'est l'évaluation. Donc, c'est encore très nouveau que les ergothérapeutes vont aller à domicile voir le rôle parental. Donc, on a pu vraiment mieux cibler, justement, comprendre les besoins. Et je trouve que ce qui est rassurant, puis ce qu'on souhaite, quand vous disiez là, que des fois au niveau de la DPJ ou etc., on fait pas confiance aux parents, puis il y a eu des cas un peu comme dérangeants de DPJ qui étaient impliqués dans les dossiers. Ce que nous, on souhaite, dans le fond, c'est qu'avec nos évaluations, qu'on puisse, en quelque part, sécuriser tous les acteurs pour qu'avec les recommandations qu'on fait et l'enseignement qu'on va faire aux parents, que ça va rassurer un peu tous les acteurs là, que l'enfant va être correct et que le parent va être accompagné.
Parce que c'est souvent là, malheureusement, où il y a un jugement qui est posé avant qu'il y ait une évaluation concrète qui soit faite dans votre dans le milieu. Oui.
C'est pour ça un peu qu'on souhaite que les services de la clinique et nos projets de recherche soient mieux connus pour justement que si les demandes sont faites, l'accompagnement est donné, il va y avoir moins d'inquiétudes de part et d'autre.
Pour l'instant, pardon, Madame Pitouch, oui.
Oui, donc je voulais compléter effectivement et je pense qu'il faut se défaire collectivement de notre préjugé peut-être qu'on peut entretenir à l'égard des parents en situation de handicap, à savoir que un parent en situation de handicap qui a des besoins, ça ne veut pas dire qu'il est en situation d'incapacité ou de négligence parentale. Il faut absolument comprendre ça. Je pense que c'est un de nos messages clés qui découle de nos recherches.
Oui, parce que souvent ce qui manque, ce sont des outils qui sont très simple, que ce soit une table allongée qui est escamotable ou dont la hauteur peut être variable. Ça peut être un lavabo ou une bassinette pour donner le bain à l'enfant, qu'il soit quelque chose qui soit accessible et que le parent puisse utiliser facilement. Ça ne demande pas nécessairement qu'il y ait la présence continuelle de quelqu'un par-dessus leur épaule. Là. C'est complètement autre chose. En ce moment, la clinique couvre ou aide aux besoins des parents pour les enfants qui ont de 0 à 2 ans. Qu'est-ce qui arrive après 2 ans? Ça donne le vertige de penser qu'il puisse y avoir à ce moment-là un vide.
Oui, effectivement. Donc, c'est sûr que la clinique accompagne les parents et les familles jusqu'à l'âge de 2 ans. Donc, après, ils vont tenter du mieux qu'ils peuvent de concerter l'offre de services, par exemple, avec les CLSC ou les centres de réadaptation qui sont toujours impliqués dans la vie des familles. Mais c'est sûr qu'il faudrait qu'on pense au Québec comment est-ce qu'on peut améliorer tant l'accès, l'accessibilité de nos systèmes et de nos politiques pour les familles où il y a un parent en situation de handicap.
Ben, on va se laisser sur cette conclusion, Mme Pitouch, Mme Bottary, merci beaucoup.
Merci.
Merci à vous.
Sans détour avec François Beauregard.
De retour, je suis en compagnie du docteur François Corbin, médecin-chercheur au Centre de recherche du Centre universitaire de l'Université de Sherbrooke et professeur titulaire à la Faculté de médecine et des sciences de la santé de la même université. Docteur Corbin, comment allez-vous?
Ça va bien, merci.
Ça va bien, je vous remercie. Aujourd'hui, j'aimerais que vous nous entreteniez un peu d'une maladie qui est importante, là, qui a une prévalence non négligeable, qui est héréditaire, qui est malheureusement méconnue, je dirais. On appelle le X fragile. Ça porte un nom un peu curieux. Parlez-nous-en.
Et oui, effectivement, dans le fond, le syndrome du X fragile, on parle d'une maladie rare parce que c'est moins de 2000. Donc, on parle d'un cas sur 2000 chez les garçons, puis un cas sur 1000 chez les filles, un cas sur 4000 chez les garçons. Puis c'est une déficience intellectuelle héréditaire. Donc, c'est la première cause, en fait, de déficience héréditaire. Parce que la première cause qu'on connaît bien, là, on appelle la trisomie 21.
Par exemple, oui.
Ou le syndrome de Down. Donc, ce qui est particulier, parce que disons que au point de vue de la trisomie 21, ils sont facilement reconnaissables, alors que le syndrome du X fragile, ils sont plus difficilement reconnaissables.
D'accord.
Parce qu'ils ressemblent un peu à, comme on dit à Monsieur Tout-le-Monde, donc les gens pourraient les croiser puis pas s'en rendre compte. Par contre, à leur contact, le contenu de la science intellectuelle, c'est sûr qu'ils vont peut-être remarquer un comportement un peu différent, je dirais. Là.
Au Québec, ça représente combien de cas qui ont été identifiés?
Bien, en fait, il y a des milliers de cas.
D'accord.
Donc, on est capable de les identifier parce qu'on a vraiment un test très, très fiable, parce qu'on connaît bien la mutation, parce que c'est une mutation en particulier qui cause l'absence d'une protéine au niveau du cerveau. Et c'est l'absence de cette protéine-là qui empêche le développement normal du cerveau. Donc, les gens qui ont le syndrome d'X fragile aussi, ils ont une espérance de vie normale. Ils n'ont pas de maladie parce que souvent, au niveau de la trisomie 21, des fois, il y a des problèmes cardiaques, etc. Mais eux, donc, ce n'est pas des gens qu'on voit dans l'hôpital, mais c'est des gens pour lesquels C'est très, très lourd le quotidien avec ces enfants-là. Puis ça arrive toujours dans des familles qui n'en avaient pas avant.
Oh,
c'est un
okay.
peu particulier comme...
Alors, c'est héréditaire, mais ça survient brusquement.
Ça survient brusquement parce que c'est comme une mutation, mais qui évolue de génération en génération jusqu'à arriver au syndrome du X fragile. Puis évidemment, lorsqu'on en découvre un, bien là, évidemment, on fait un dépistage dans la famille.
La fratrie, oui.
Évaluer, mm-hmm. Oui, puis évaluer les risques. Puis, mais c'est sûr que ça va réapparaître dans d'autres familles plus tard. Donc, c'est assez sournois. Et je vous dirais que c'est très, très difficile parce que c'est transmis toujours par la mère.
Mm-hmm.
Et il y a toute la question, en fait, de culpabilité
oui.
les gens ont naturellement par rapport à ça. Puis on s'entend que les mères ne sont pas plus coupables de ça.
Non,
ils sont
tout à
coupables
fait.
De donner des yeux bleus à leur enfant. Là.
Bien, je dois vous dire que dans ma famille, on est 4 enfants. Nous, tous les 4, faisons de la rétinite pigmentaire, qui est aussi une maladie héréditaire, mais cette fois de l'œil. Là. Puis jusqu'à son décès, ma mère se sentait toujours très... très coupable d'avoir donné naissance à 4 enfants qui seraient handicapés visuels. Là. On avait beau lui dire qu'on était tout de même assez heureux, malgré tout, mais je comprends. Mais le fait que ce soit... est-ce que c'est prévisible, le fait qu'est-ce qu'on peut dépister ça donc chez les parents avant qu'ils n'envisagent d'avoir une famille?
Bien, disons que la prévalence... c'est parce qu'il y a comme une étape juste avant qu'on mm-hmm. appelle la prémutation.
D'accord.
Que la mère est porteuse, on parle d'un risque de 1 sur 259
mm-hmm.
d'avoir cette qu'on appelle la prémutation. Mais je vous dirais que j'ai fait une revue de littérature dans les dernières années, puis je vous dirais que bien que les outils sont, disons, disponibles, ça, le risque est quand même relativement faible d'arriver avec un enfant mm-hmm. de syndrome du fragile. Puis certains ont tenté de faire l'expérience et vous savez, de dépister par exemple des femmes enceintes. Et là, on leur apprend que finalement, il y a un risque d'avoir un enfant X fragile.
Oui.
Ça peut rapidement changer un événement
heureux.
Qui peut être heureux vers un malheureux.
Antiagène,
alors que finalement,
oui.
plusieurs de ces femmes-là vont être alertées un petit peu pour rien.
Oui, donc, je comprends. Il y a une question éthique là, de l'usage de ce genre de test, mais une fois que l'enfant est parmi nous,
oui.
vous avez quand même, à ce moment-là, vous allez tester les frères et sœurs ou la fratrie,
oui.
mais il faut s'occuper de l'enfant qui va avoir des besoins qui peuvent être exigeants pour la famille.
Tout à fait. Puis, lorsqu'il y a des filles qui peuvent avoir ce qu'on appelle la prémutation, donc ils sont à risque d'avoir un enfant fragile, il peut avoir un diagnostic préimplantatoire. Puis, vous savez, ce n'était pas assuré par le gouvernement dans les dernières années. Là,
mm-hmm.
Moi, ça avait quelque chose qui m'avait complètement perturbé parce que c'est absolument nécessaire là, de faire ce dépistage-là parce que c'est des enfants très, 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 très lourds. Là. On parle de déficience intellectuelle de moyenne à sévère. Là.
Mm-hmm.
Donc, c'est des enfants donc avec un niveau intellectuel bien souvent de l'âge de 2 ans. Donc, en plus de déficience intellectuelle, ben il y en a le tiers qui vont avoir en plus un diagnostic d'autisme.
Ah, d'accord.
Donc, et des problèmes d'agressivité, des problèmes d'anxiété. Donc, le niveau d'adaptation là, est très, très difficile là, pour ces enfants-là là, qui ont une espérance de vie normale. Donc, à chaque étape de la vie, il y a d'autres défis qui se mm-hmm. présentent à eux et des difficultés à s'adapter à chacune de ces étapes-là.
Parce que peut-être souvent les symptômes apparaissaient, mais il était impossible de mettre le doigt exactement sur la cause, là, parce qu'il y a comme une multiplication de syndromes qui, à la longue, peut-être sonne l'alerte. Mais une fois qu'on a dépisté ou qu'on constate que l'enfant vit avec le syndrome de l'X fragile, plus souvent les garçons que les filles, qu'est-ce qu'il y a à faire? Parce que c'est incurable, il n'y a rien à faire. C'est une maladie qui est génétique. On ne peut pas pallier à ça.
Mais je vous dirais, il y a quand même beaucoup de recherches. Moi, mm-hmm. je suis chercheur à ce moment-là et étant donné que, vous savez, la déficience intellectuelle, ça touche 2 % de la population.
Mm-hmm.
C'est quand même pas négligeable. Donc, c'est 2 fois plus fréquent que l'autisme. Donc, Et comme c'est dû à l'absence d'une seule protéine, donc les gens s'intéressent beaucoup parce qu'ils se disent, ben écoutez, si c'est une protéine, c'est probablement moins complexe que, par exemple, dans le contexte de trisomie 21, on parle d'un chromosome complet de plus. Donc, il y a beaucoup d'intérêt au point de vue de la recherche de trouver des traitements, en fait, pour changer, en fait, la trajectoire de vie de ces enfants-là. Mm-hmm. Et surtout d'améliorer de plus en plus la question de l'autonomie. Alors, il y a beaucoup de chercheurs qui sont dans ce domaine-là. La recherche, vous savez, ça progresse, mais ça progresse toujours lentement. Mais il y a quand même eu des études internationales qui ont lieu, puis il y en a encore qui vont commencer bientôt. Pour des maladies rares, touchant des intellectuels, c'est plutôt rare qu'on voit des compagnies vouloir s'investir. Mais ça montre l'intérêt, en fait, vers le syndrome du X fragile pour dire, ben, est-ce qu'il y a certains de ces traitements, en fait, qui pourraient s'appliquer à d'autres formes de déficience intellectuelle? Mm-hmm. Donc, d'où l'intérêt de la recherche à ce niveau-là.
Parce qu'il y a une protéine à cibler au lieu que ce soit un champ de recherche qui soit plus large. Vous avez comme une seule protéine qui cause tout ce tracas.
Vous avez tout à fait raison, mais c'est une protéine, mais on se rend compte que quand même, elle fait beaucoup, beaucoup de choses, cette protéine-là. Oui. Et en fait, c'est impossible de remettre la protéine à l'intérieur de chacun des neurones, vous savez, parce que le cerveau, c'est pas facile à avoir accès. Donc, ce qu'il faut faire, c'est en fait compenser en fait les causes de son absence au niveau du cerveau pour espérer en fait créer des effets là, persistants là, chez les patients et les familles.
Est-ce que vous pouvez remonter puis intervenir au moment de ce que vous appelez la prémutation? Où il y a comme une sorte de gestation de la situation à venir quelques générations précédentes?
Écoutez, ce qui n'est pas facile souvent, c'est que, comme je vous dis, c'est quelque chose qui évolue, cette mutation-là. Mm-hmm. Puis lorsqu'on découvre des familles, bien évidemment, on teste les gens qu'on connaît, mais vous savez, souvent, il y a les grandes tantes, les grandes oncles, les cousines. Il y a des gens dans la famille qui sont beaucoup plus éloignés pour lesquels on a perdu de vue. Et là, on ne sait pas trop où est-ce qu'il est rendu. Est-ce que eux aussi, la mutation s'est transmise? Et donc, peut-être que ça va être dans des régions très éloignées qu'on peut le voir, mais on comprend en partie les mécanismes qui vont faire qu'il va y avoir cette expansion-là, en fait, cette évolution-là, mais on ne les comprend pas complètement. Puis la prévalence de ça, elle est à peu près la même partout dans le monde. Donc, c'est quelque chose qui est quasiment naturel au point de vue génétique. Là. Donc, les solutions ne sont pas très simples à ce niveau-là. Dans le fond, ce qu'il faut, c'est identifier les gens. Puis, je vous dirais les accompagner, je vous dirais, si, par exemple, ils veulent avoir des enfants, puis avoir des façons de prévoir s'ils vont avoir des enfants qui sont fragiles. Mais je vous dirais que c'est pas simple. Là.
Non, je comprends. Récemment, enfin, au cours des dernières années, un peu suite à un colloque qui, je pense, était organisé par l'Université de Sherbrooke, les parents qui ont des enfants qui composent avec l'X fragile, il y a un organisme qui a été créé qui s'appelle X fragile Québec. Donc, il commence à y avoir une conscientisation de cette problématique.
Ben en fait, effectivement, je travaille vraiment depuis de nombreuses années sur le syndrome du X fragile et effectivement, j'ai, disons, participé en partie, disons, à l'émergence, en fait, de cette association-là, X fragile Québec. Puis, c'est vraiment un partenariat qu'on a avec l'association pour essayer de répondre, en fait, le plus possible aux besoins des familles. Évidemment, j'essaie de répondre à leurs besoins, mais avec mes compétences, parce que, évidemment, il y a des impacts au point de vue de l'éducation, au point de vue de plein d'aspects que je ne peux pas nécessairement traiter, mais au moins de les accompagner. Et dans les projets de recherche, ben, il y a des familles qui participent. Il y a des familles qui décident de ne pas participer. Moi, je fais de suivi des familles aux plus de 70 familles à travers tout le Québec. Et heureusement, dans le contexte de la pandémie, on a eu la possibilité de faire, en fait, de la visioconférence avec ces familles-là, chose que avant la pandémie, ce n'était pas possible de le faire directement avec les intervenants. Donc là, ça m'a permis, en fait, de communiquer avec des gens aussi loin que Rouyn-Noranda ou en Gaspésie et d'apporter un certain support, parfois aux médecins traitants, mais aussi directement aux parents des familles aux prises avec syndrome du X fragile. Ça demeure quelque chose quand même, comme vous avez dit, de peu connu Et il y a quand même une approche là, particulière qu'il faut avoir pour ces enfants-là.
Et si on peut identifier que l'enfant souffre du syndrome de l'X fragile, à ce moment-là, on peut mieux anticiper les besoins, parce que c'est des besoins, comme vous dites, qui vont s'étaler sur la durée d'une vie, parce que l'espérance de vie n'est pas amoindrie par l'X fragile, c'est juste que la vie va être compliqué et à chaque étape de la vie.
Oui, effectivement. Ce que je trouve un petit peu triste actuellement, c'est que, je vous dirais qu'on voit beaucoup de choses par rapport à l'autisme, puis je trouve que, en fait, toutes les initiatives qui ont été faites, puis je pense entre autres à Autisme bientôt majeur, puis maintenant Autisme maintenant majeur par Charles Fortune, je pense que ça a aidé à démystifier un peu l'autisme et quand même beaucoup, beaucoup de recherches. Par contre, du côté de la déficience intellectuelle, je pense qu'il reste encore beaucoup de travail à faire de ce côté-là. Et je vous dirais que, comme je vous disais, il y avait un tiers des enfants avec l'X fragile qui ont un diagnostic d'autisme. Bien, vous savez, les services ne sont pas les mêmes avec un diagnostic d'autisme ou non, mais il y a quand même beaucoup de besoins à la base pour la déficience intellectuelle. Donc, il y a un petit peu une injustice, en fait, au niveau de ces familles-là, du fait qu'il y a certains parents qui souhaitent vraiment que leur enfant ait un diagnostic d'autisme pour avoir
Je comprends. Ouais, ça c'est un effet pervers, ça, des avancées de la société qui ne sont pas toujours égales, mais enfin on espère tous arriver au même but, le même jour.
Je vous dirais l'autre aspect que je voulais vous dire aussi, c'est que c'est sûr que les garçons, ils ont une déficience intellectuelle moyenne à sévère, donc il y a des besoins particuliers. Mais chez les filles, il y a aussi de la déficience intellectuelle au niveau du syndrome du X fragile. En fait, le tiers en ont. Et la déficience est souvent limite ou légère. Puis je vous dirais qu'eux autres aussi, ils ont des défis qui ne sont pas tout à fait les mêmes. Mais eux, ils se rendent compte plus de la différence qu'ils ont et le regard des autres, parce qu'il y a vraiment une incompréhension de l'handicap, de la déficience intellectuelle voir. On dirait que quelqu'un qui manque une jambe, qui a la misère à marcher, les gens comprennent rapidement.
Oui, mais ce qu'on voit pas nous fait plus peur encore. Et ça, c'est, je pense que c'est malheureusement la nature humaine. Mais il faut continuer de travailler dans ce sens-là. Je vous remercie, Dr. Corbin, de nous en avoir parlé. Puis on va suivre le dossier. Dr. François Corbin de l'Université de Sherbrooke. Merci. Bonne journée.
Merci, M. Beauregard. Bonne journée. Au revoir.
Merci, merci. Vous pouvez vous rasseoir. John Mayall avec Room to Move. C'est une pièce qu'on a entendue souvent dans les années 70. Et voilà, maintenant, on va faire un tour de la planète aujourd'hui avec Christiane Campagna. Comment ça va?
Ça va très bien, François, vous?
Ça va très bien, merci. Qu'est-ce qui se passe en Colombie-Britannique?
Bien, il y a une mère issue des Premières Nations qui souligne les obstacles auxquels les peuples autochtones sont confrontés lorsqu'ils tentent d'accéder aux services s'adressant aux personnes en situation de handicap. Elle demande un soutien qui soit peut-être aussi plus adapté à la culture. Mm-hmm. Notamment, bon, elle s'appelle Yimbia Barnaby, elle est d'origine Mi'kmaq et Haïda. C'est une mère monoparentale de 6 enfants, dont 5 ont des besoins particuliers. Et tout d'abord, elle souligne que les familles autochtones qui ont des enfants ayant un handicap ou qui soupçonnent que leur enfant pourrait en avoir un, ils ont souvent très peur de se présenter pour accéder aux services de soutien parce que ce sont des services qui sont liés au ministère du développement de l'enfant et de la famille. Et pour les premiers peuples, ben, il y a une méfiance envers ce ministère qu'on associe notamment aux pensionnats autochtones.
Oui, on voit ça venir. C'est assez évident juste par le nom, là. Oui,
oui, voilà. Et c'est donc envers... aussi souvent les institutions gouvernementales, puisque dans le passé, ce que le gouvernement a fait, c'est vous retirer vos enfants.
Exact.
Et qu'en plus, vous avez des enfants qui ont peut-être des problématiques particulières, ça exacerbe en plus cette peur-là. Elle déplore aussi le fait qu'il y a un manque de travailleurs et de services de soutien dans certaines régions, notamment où elle vit à Prince-Rupert. Elle dit que la plupart des services de soutien sont centralisés dans les grandes villes comme Prince George ou Vancouver, et que c'est un manque qui a été exacerbé par la pandémie. Alors, elle a appelé à une réponse qui tient compte des traumatismes passés de la population et aussi à une meilleure répartition là, de ces services sur le territoire.
L'an passé, au printemps dernier, je pense qu'on avait ici à l'émission des intervenantes qui venaient d'une initiative, justement, où on essayait de faire le pont entre les Premières Nations au Québec et les services pour les personnes handicapées.
Oui, c'était plus précisément dans le domaine de l'emploi.
Exact.
Voilà, c'était en collaboration avec cet organisme qui soutient la recherche.
Oui.
Société inclusive.
Exact.
Si je me souviens bien.
Voilà, bravo. mais dans le cas de Mme Barnaby, là, on parle plutôt de soutien à l'enfance.
Voilà, exactement.
Et ça, c'est une autre problématique. Oui, ça semble être une ce qu'on appelle un perfect storm. Là. Elle est vraiment aux prises avec éloignée, avec une méfiance justifiée envers les services gouvernementaux, puis une absence de main-d'œuvre et de ressources. Là, ça fait lourd.
Mm-hmm. Alors, j'ai aussi relevé un texte d'opinion dans le New York Times qui a été écrit par une personne en situation de handicap, qu'en fait, il y a des problèmes, plus particulièrement en ce qui a trait à l'élocution.
Mm-hmm.
Et ça dit, les assistants vocaux ne nous comprennent pas et ils devraient.
Ah, ça, c'est vrai. Oui, puis on n'a pas besoin d'avoir un problème d'élocution très marqué, vous savez, pour qu'ils ne nous comprennent pas. Là.
En effet.
Il faut parler de façon très pointue. J'ai quelques amis dont les synthèses vocales créent des textes abracadabra.
Oui, voilà. Et selon le National Institute of Deafness and Other Communication Disorders, c'est environ 7,5 millions de personnes aux États-Unis qui ont du mal à utiliser leur voix, qui ont des problèmes d'élocution pour une façon ou une autre. Ça peut être une question de paralysie cérébrale, ça peut être un bégaiement, tout simplement, une maladie dégénérative. Et ce sont des personnes pour qui les assistants vocaux pourraient être très, très utiles. Justement parce qu'ils ont souvent d'autres handicaps physiques.
Exact. C'est essentiel parce que peut-être ils peuvent avoir un problème tactile. Peut-être que de pitonner sur un clavier est quelque chose qui leur est très difficile ou impossible. Alors, leur seule façon de rejoindre leur ordinateur, c'est par la voix. Puis là, l'ordinateur ne les comprend pas.
Certains cas, ça pourrait être une question de vie ou de mort, d'une possibilité de pouvoir plus facilement appeler les secours en cas de danger. Et ces appareils, notamment, ont tendance à cesser l'écoute dès qu'il y a une légère pause dans le déroulement d'une phrase. Parce que les entreprises ont conçu la technologie pour répondre à la parole ininterrompue de ce qu'on appelle la voix moyenne de l'anglophone nord-américain. C'est ce qu'explique Frank Rudzik, qui est un professeur de l'Université de Toronto. Alors, les divers schémas vocaux qui divergent de ça semblent étrangers aux appareils à commande vocale. pour interpréter la parole, les assistants vocaux convertissent généralement les commandes en texte et comparent ce texte à des mots dans une base de données. Mm-hmm. Mais quand c'est dès le départ, c'est quand on a monté ces bases de données-là qu'on n'a pas fait appel à un assez grand éventail de façon
de voix ou
de s'exprimer. Monsieur Rudy qui dit on a essayé d'atteindre 80 % des personnes avec 20 % de l'effort en utilisant des voix par défaut, comme il les mm-hmm. appelle. Donc, maintenant, les entreprises essaient de corriger ça. Apple a collecté plus de 28 000 clips audio de personnes bègues. Ils ont essayé Amazon a collaboré avec une application pour essayer d'élargir l'éventail. Google a travaillé avec des ingénieurs, a investi 25 millions. Mais le problème, selon un autre chercheur, lui, de l'Université de la Californie, c'est que lui, il participe à des recherches avec Google. Il vit avec la paralysie cérébrale. Il dit « Avant, j'étais pas du tout comprise. Maintenant, je travaille avec Google à essayer, justement, à partir de ma façon de m'exprimer, d'arranger ça. Mm-hmm. » Ça s'en vient, selon lui, là, les prototypes de l'assistant sont améliorés. Mais ce que le chercheur Rudzik dit, c'est que c'est plus difficile de modifier un logiciel après sa création.
Ah, oui.
C'est toujours le même problème de l'amont et aval que de le développer avec des capacités différentes en premier lieu.
Donc, dès le départ.
Si les entreprises ne donnent pas la priorité à l'accessibilité dès le départ, ben ça va être plus compliqué par la suite de rendre leurs produits accessible.
On va toujours être en train de repatcher, puis ça fait jamais aussi bien que quand c'était conçu dès le départ. Et cette idée de faire la voix moyenne, il n'y a personne de moyen, c'est ça le problème. Et en même temps, la beauté du monde, nous sommes très diversifiés et si on veut tous s'inclure, ben il faut arrêter de penser à la personne. La personne moyenne, là, elle n'existe pas.
Non, ce n'est pas une personne moyenne, c'est une personne générique.
Oui, c'est ça.
Parce que là, ce texte d'opinion-là a été fait par une personne en situation de handicap, mais je suis certaine que des personnes avec des accents divers
exact,
aussi
oui.
vivent le même problème.
Tout à fait, tout à fait. Alors, on va y arriver, mais ça va demander, encore une fois, peut-être une réflexion qui précède la création. Voilà.
Je termine sur une bonne nouvelle en termes de diversité. C'est qu'au Royaume-Uni, à la BBC, plus précisément à une chaîne qui s'adresse aux jeunes, aux enfants, il y aura un présentateur qui vit avec une trisomie 21. Il s'appelle George Webster, il a 20 ans et il débarque sur CBeebies, qui est la chaîne jeunesse de la BBC. Il sera chargé d'animer des chroniques entre les différents programmes. Donc, il parlera de cuisine, de chant, de danse et d'inclusion. Ça a été publié le 20 septembre dernier sur le compte Twitter donc de CBeebies. La vidéo de présentation totalise a eu un grand succès. Il y a 1,5 million de personnes qui ont vu la vidéo annonçant cette bonne nouvelle. La nouvelle recrue dévoile notamment ses passions, la danse, le chant, la cuisine, promettant de livrer ses délicieuses recettes de smoothie notamment. Monsieur Webster a déjà des expériences en tant qu'acteur et danseur. Il sera chargé d'animer donc des diffusions. On avait vu ça dans les émissions jeunesse ici aussi. On avait des animateurs jadis entre les émissions présentées. Oui. Mais cette fois-ci, c'est une personne vivant avec une trisomie.
Ben bravo. Puis c'est tout à fait normal et adéquat. Ben merci beaucoup, Christiane Campagna, notre recherchologiste. Et Monsieur Jean-Sébastien Laliberté, notre jazzologue. Pas parce qu'il jase, mais parce qu'il connaît son jazz. On se reparle dans 15 jours, le 18 octobre. Ayez une pensée d'ici là pour les dindes et les jambons.